Bonjour à tous. Voilà, nous allons entamer une série de prédications sur l'épître aux Galates. Donc je vais juste dire quelques mots d'introduction par rapport à cette lettre avant d'entamer vraiment le texte. Donc, c'est une des premières lettres donc, de l'apôtre Paul qui a été écrite à peu près dans les années 50, ce qui veut dire en gros 20 ans après la résurrection du Christ, 20 ans après la Pentecôte. Et cette lettre va nous montrer que finalement, rapidement, il y a eu des problèmes dans l'Église. Là, c'était particulièrement donc les chrétiens d'origine juive qui voulaient que les gens se circoncisent, observent la loi, et l'apôtre Paul va écrire une lettre pour défendre la grâce, la liberté, la gratuité de l'évangile, et on verra dans la lettre qu'il y aura parfois des expressions un peu fortes. Mais l'apôtre Paul, vous le savez, que lui avait reçu le ministère vraiment du Seigneur, il a eu cette révélation sur le chemin de Damas, il a vécu des choses extraordinaires, et surtout il avait une grande compréhension de l'évangile. Certains ont appelé cette lettre la grande charte de la liberté chrétienne ou même la foi évangélique. Elle ne parle pas que de liberté, elle va aborder des questions doctrinales. Elle montre que s'il y a eu des problèmes dans l'Église, ce qui est assez étonnant, c'est que ces problèmes se sont répercutés au cours de l'Église et qu'il y a toujours eu des personnes pour défendre la saine doctrine. Et dans à peu près les 5 premiers siècles de l'histoire de l'Église, vous savez que les personnes qui ont été les responsables de l'Église après les apôtres, on les a appelés des pères, bon, les pères de l'Église, tout ça avec des noms un peu différents, mais un de leurs rôles principaux, ça a été de défendre la foi chrétienne. Et mettons, sur la divinité du Christ, sur la Trinité, tout ça, et bien dans les premiers siècles d'histoire de l'Église, vous avez beaucoup d'écrits. Donc les problèmes ont donné aux chrétiens, finalement, l'occasion de se poser les bonnes questions sur leur foi et de dire, bah oui, nous disons que Christ est le Fils de Dieu, mais il faut vraiment pouvoir le prouver, l'affirmer par l'Écriture. Donc le fait que l'Église soit attaquée, en soi, c'est pas si mauvais que ça. Ça oblige à penser... Qu'est-ce que je crois, hein? Et quand vous faites de l'évangélisation, c'est parfois les questions que les gens vous posent, qui vous amènent vous-même à vous reposer des questions, et dire, mais finalement, en quoi je crois, et comment je peux défendre ma foi, hein, la défense de la foi, ce qu'on appelle donc de l'apologétique. L'enseignement de ces faux docteurs était que les chrétiens issus du paganisme donc, devaient se faire circoncire, observer la loi de Moïse, sinon, affirmait-il, ils ne peuvent pas être sauvés. Alors c'est une question qui va être largement débattue. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, il y a une grande réunion qui se passe à Jérusalem, qu'on a appelé le Concile de Jérusalem. Il y a les apôtres, il y a des anciens d'église, hein, il y a tous des chrétiens qui sont venus là pour discuter, est-ce que il faut vraiment circoncire les gens qui viennent du paganisme. Et à la fin, ils en arriveront à cette conclusion qu'on est sauvé par la grâce seule, et c'est le message qui va être proclamé. On sait qu'une des tactiques du diable pour freiner l'avance de l'évangile, c'est de diviser l'Église. Et croyez-moi que cette lettre a son importance, parce que là, dès la naissance de l'Église, il y avait un gros risque de division. Hein, et quand l'apôtre Paul écrit aux Galates, il n'écrit pas à une assemblée de 50 personnes, c'est aux églises de la Galatie. Amusez-vous, allez regarder sur une carte, et je vais autant vous dire, ça couvre toute une région. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà entendu ces faux enseignements et tout, et certainement qui étaient retournés vers les chrétiens qu'on appelle les chrétiens judaïsants. Donc lui, Paul, il a bien compris le danger qu'il y a. Il va réagir avec cette lettre et il y aura, mettons, des expressions qui peuvent parfois surprendre. Il va dire à ces Galates, « Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Alors on reviendra sur ces expressions, mais vous voyez, c'est quand même quelque chose de faux. Hein, et quand il parle des faux docteurs, il en parle d'une manière un peu virulente. En tout cas, là, si vous lisez cette lettre en entier, que vous lisez aussi les passages dans le livre des Actes, on voit que cet enseignement, cette obligation à se faire circoncire, avait déjà bien fait son chemin dans l'Église. L'Église est donc perturbée par ces personnes qui veulent finalement, la lettre nous montrera que non seulement ils vont leur dire « Vous devez vous faire circoncire » et Paul dira leur but, c'est que vous alliez vers eux. Leur but c'est de dire « Voilà, on a gagné des disciples qui nous écoutent, qui nous suivent » et il dira à la fin de sa lettre qu'en fait leur but c'est de glorifier la chair. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. John Stott, vous connaissez peut-être donc, hein, quelqu'un qui a écrit pas mal de commentaires, le titre de son commentaire c'est « Appelé à la liberté ». Je pense qu'on peut dire de l'apôtre Paul que ça aurait été le prédicateur de la grâce. Un père de l'Église, donc, qui a connu l'apôtre Paul, a dit que quand on le voyait sur son visage, on voyait vraiment la grâce. Qu'il avait un visage, un regard qui respirait vraiment la grâce. Physiquement, il y a des descriptions pas très sympas sur l'apôtre Paul. Il était petit, les gens barqués, un peu chauves, tout ça. Vous avez peut-être déjà vu des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est beau de dire de quelqu'un, 2000 ans après, ce qu'on disait de lui, c'est que son visage respirait la grâce. Alors Paul va défendre cet évangile de la grâce, mais dans cette lettre, il défendra aussi ce qu'on va appeler son apostolat, son ministère d'apôtre, surtout l'autorité qui était liée à ce ministère. Parce que l'apôtre Paul, je vous rappelle, ne faisait pas partie des 12. Alors, pour ce matin, je vous invite à lire Galates chapitre 1, nous dirons les versets 1 à 21. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises. Je vais reprendre ma lecture parce que j'ai perdu mon autre Bible et j'ai mal à lire sur celle-là. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères et sœurs qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, Je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Aujourd'hui, tout comme les apôtres, on peut dire que nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce. Nous avons en nous l'assurance de notre salut. Nous aussi, nous sommes les ambassadeurs de Christ, les envoyés. Nous sommes des messagers de la grâce divine. Nous sommes porteurs d'un message d'espérance, l'Évangile. L'Évangile que nous proclamons, mais aussi que nous vivons, malgré nos faiblesses, c'est vrai, mais nous le vivons quand même, j'ai envie de dire, nous en vivons. Nous avons été affranchis par le Christ, rendus libres. Il nous a libérés de la loi, bien que nous ne soyons pas sans loi. Mais nous avons été délivrés de la condamnation de la loi. Il est dit dans l'Épître aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Christ est venu pour nous libérer. Nous avons reçu le pardon de nos péchés, mais nous avons reçu aussi la libération. Nous sommes sortis d'Égypte. Et la Bible nous invite à marcher dans cette liberté. Marcher dans la liberté, c'est aussi marcher dans l'obéissance et la soumission à Christ. Pas toujours facile de comprendre que plus on est soumis à Christ, plus on est libre. On est aussi appelé à rester fidèle à l'Évangile que nous avons reçu. Car on a vite fait de transformer cet Évangile. On ne va peut-être pas l'annoncer aux gens qui doivent se circoncire, mais annoncer notre pleine liberté en Christ, la vivre et la transmettre, ce n'est pas évident. Ce n'est surtout pas évident de ne pas y rajouter des lois et des traditions. Donc vous voyez que cette lettre, elle a vraiment à nous parler. Mais on est appelé aussi à porter du fruit pour que notre Père Céleste soit glorifié. Je vous rappelle que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et par la vie que nous menons, les gens doivent voir que nous avons été libérés, que nous avons quelque chose de plus. Mais pour persévérer dans cet enseignement, j'ai noté les prières que plusieurs ont remerciées pour la parole. Et pour persévérer dans l'enseignement, pour persévérer dans la marche avec notre Seigneur, on a besoin de rester fidèle à l'enseignement du Christ, on a besoin de la nourriture de cette parole. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il faut vraiment que ça soit une réalité pour nous. Quand il dit qu'il faut manger sa chair, évidemment, ces paroles sont les paroles, comme il dit, esprit et vie, c'est pas manger la chair de Jésus, mais désirer son enseignement, désirer cette parole comme un enfant désire son biberon le matin. Mais nous sommes appelés aussi à rester vigilants, comme l'apôtre Paul l'a été. Et cette lettre, quand on la lit comme ça, d'un seul coup, on pourrait dire, ouais, elle est quand même assez dure. Mais quand on fait attention aux mots qui sont employés, on voit qu'elle est très fraternelle et qu'il y a vraiment un amour vrai qui pousse l'apôtre Paul à dire « Attention frère, vous êtes en train de marcher sur un mauvais chemin. » Alors que les Galates commencent à se laisser séduire, sont tentés de se mettre sous la loi, ils sont tentés de se faire circoncire, d'écouter le beau chant de ces faux docteurs, Paul va intervenir pour stopper ça et son but, c'est de les détourner de cette volonté de se mettre sous la loi pour leur dire revenez sous la grâce. Ne perdez pas la liberté que Christ vous a acquise à la croix. Et aujourd'hui, après plusieurs années de vie chrétienne, on peut parfois être tenté d'abandonner la foi, de passer à un autre évangile. Et tout ça, ça le fait toujours d'une manière très subtile. L'apôtre Paul parlera d'un homme qui s'appelle Démas, qui apparemment faisait partie de l'équipe missionnaire de Paul, et dira que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il ne faut pas, je dirais, penser que parce que nous avons la foi, toute notre vie va se vivre dans la joie, dans la paix, dans la liberté, et qu'il n'y aura jamais des choses qui seront là autour de nous pour ne pas nous détourner. Hein, l'amour du siècle présent peut être une chose qui nous détourne, mais on peut être dans l'Église et perdre la liberté que nous avons en Christ et se placer tout doucement sous la loi. On dit toujours que celui qui se place lui-même sous la loi, c'est un problème en soi, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que quand on se place sous la loi, on développe un esprit de jugement. Et on va juger des autres qui n'appliquent pas les mêmes lois qu'on sait appliquer à soi-même. Et ça, c'est une chose que nous devons veiller. Nous avons fondé notre foi sur l'Évangile, la parole de Christ qui nous a libérés. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a fondé notre foi sur l'Évangile ? Je dirais qu'ici on a deux réponses. La première, c'est que l'Évangile fait autorité dans nos vies. Vous avez tous remarqué que quand vous lisez la parole de Dieu, vous faites tout de suite la différence avec un roman policier. Hein ? Oui, vous lisez le roman policier, 5 ans après vous le relisez, vous vous rappelez la fin de l'histoire, mais ça ne change pas grand-chose. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez tout de suite, je ne suis pas en train de lire un roman policier. Combien de fois, essayez de réfléchir depuis que vous êtes converti, combien de fois vous avez lu les évangiles ? 50 ? 60 ? 100 fois ? Enfin, je ne sais pas. Combien de fois ? Mais à chaque fois que vous lisez, il vous parle. Parce que c'est la parole de Dieu. Si un livre, vous l'avez lu 100 fois, vous commencez la première fois, vous savez comment il se termine. Moi, c'est très rare que je lis de mon policier, hein, j'en ai déjà lu. Hein. Mais la parole de Dieu, je la lis pour ma méditation personnelle, je l'utilise presque tous les jours pour préparer des messages, des études, tout ça, et j'en retire toujours quelque chose. Et quand je partage au sein des études, j'apprends encore par les frères et sœurs, et je me dis, mais c'est une richesse, on n'a jamais fini avec ça. Et c'est une parole qui change ma vie. Je peux lire la vie d'un philosophe ou la biographie d'un grand homme et puis que voilà, ça peut m'interpeller, ça peut peut-être me donner des idées, ça peut peut-être donner une certaine orientation, ouais, mais ça ne va pas transformer ma vie en profondeur comme la parole. Ça ne peut pas changer ma mentalité. Jésus dira à ses apôtres, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donné. Et dans le contexte, hein, c'est dans Jean 15, c'est une transformation de leur mentalité, de leur échelle des valeurs. Voilà ce qu'a produit l'enseignement de Jésus. C'est une parole qui fait autorité. L'apôtre, lui, va aussi défendre cette autorité apostolique qu'il a, parce que sa parole à l'apôtre Paul, c'est l'Évangile. On rappelle, l'apôtre Paul, à lui tout seul, a écrit 13 lettres dans le Nouveau Testament qui font autorité. Et dans Jean 17, quand Jésus prie pour ses apôtres, il prie aussi pour ceux qui croiront au travers de leur parole, donc au travers de la parole des apôtres. Jésus n'a rien écrit. Tout nous est retransmis par les apôtres ou les disciples qui étaient proches. Paul va défendre l'autorité de l'Évangile, et quand il défend l'autorité de l'Évangile, il est toujours obligé de défendre son ministère apostolique. Hein, pour les Juifs, c'était clair, il y avait les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, voilà un beau schéma qui correspond bien. Judas a trahi, mais il a été remplacé par Matthias, donc il y a les 12 apôtres, on ne va pas en rajouter un 13e, hein, mais nous aujourd'hui, le chiffre 13 nous dérange, j'aurais imaginé pour eux. L'apôtre Paul, mais qui est-ce qui t'a nommé là? Tu viens faire là, tu dis des choses avec autorité, mais tu n'étais pas avec les douze, tu n'as pas vu Jésus ressuscité, rien du tout. Là, que... Et donc, bien souvent, il va défendre son ministère. C'est une chance pour nous, puisqu'on voit les critères qu'il fallait pour être apôtre. Hein. En se convertissant, l'apôtre Paul a payé le prix fort. Parce que c'était quand même le grand Saul de Tarse, qui arrive à Damas avec des lettres qui lui donnent autorité. Et j'imaginais que sur son passage, il dit, oh, attention, c'est le persécuteur qui arrive, barrons-nous, allons-nous flanquer et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il quittera Damas, il quittera dans un panier qu'on va faire descendre le long de la muraille. Entre l'entrée et la sortie, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Le premier travail de l'apôtre Paul, c'était persécuteur de chrétiens. Et en plus, il le dit lui-même qu'il était zélé. Et en se convertissant, il abandonne toute sa manière de comprendre l'écriture. Hein, du pharisien, légaliste, persécuteur, convaincu de persécuter les chrétiens pour servir Dieu, eh ben, il va passer lui-même à devenir un chrétien sauvé par la foi. C'est-à-dire qu'il rejette quelque part son passé, il dira tout ce qui faisait sa valeur, il le regarde comme de la boue. Et comme on suppose qu'il s'est converti, qu'il avait peut-être une trentaine d'années, 30 ans de sa vie qui disparaissent, entre guillemets, parce que sa connaissance de l'écriture va lui servir. Mais pas facile, rejeté par son peuple. Combien de fois l'apôtre Paul parle de sa famille dans l'écriture, vous savez? Zéro. Hein, pourtant il y aura un père, une mère, une orse. Pas évident, il a payé le prix pour défendre l'évangile. En s'attaquant à son statut d'apôtre, quand les faux docteurs disaient, mais il n'est pas apôtre, il n'a pas les qualités, voilà, les 12 apôtres qui ont été nommés, tout ça, il s'attaque à son autorité, mais il s'attaque aussi à l'évangile qu'il prêche, et quand on sait le nombre d'églises que l'apôtre Paul a implantées, évidemment, hein, ça commence à fissurer dans les églises. Est-ce que l'apôtre Paul, finalement, il nous a dit ça, mais est-ce qu'il est reconnu par les gens à Jérusalem et tout ça? Ça ne devait pas être facile pour lui. On peut relire ce que l'apôtre dit au verset 11 et 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul fait toujours remonter son ministère à l'appel qu'il a reçu de Dieu. Moi, Paul, apôtre, mis à part des saints de ma mère. Hein? Il ne fait pas remonter son appel avec les hommes qui ont été élus, choisis, non, non. Il rappelle que c'est Dieu lui-même qui est intervenu dans sa vie et qui l'a choisi pour être apôtre. Et ce qui est beau avec sa conversion, c'est quand le Seigneur dit à Ananias, vous vous rappelez le passage quand Ananias doit aller voir l'apôtre Paul qui a vécu cette conversion sur le chemin de Damas et qui est devenu aveugle. Hein? Et Dieu se révèle à Ananias, lui dit, va là-bas, il faut que tu rencontres l'apôtre Paul, là. Ananias, il ne veut pas y aller, mais il dit, ouais, mais je sais qu'il est venu pour persécuter et tout ça. Et il lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. L'apôtre Paul, là, est qualifié par Dieu lui-même d'un instrument. Vous voyez? Et l'apôtre Paul, notez que dans ses lettres, il ne se met jamais en avant. Il défend souvent son apostolat, il défend la vérité de l'évangile, mais il ne se met pas en avant. Hein, quand il parle de lui-même, c'est pour montrer ce que Dieu a fait dans sa vie. Et un des plus beaux versets, les plus belles paroles que l'apôtre Paul dira, c'est dans 1 Corinthiens 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Il est conscient qu'il est l'apôtre Paul, hein, ce n'est pas non plus quelqu'un qui fait de la fausse humilité. Il est conscient du ministère qu'il a reçu, mais il est surtout conscient de la grâce que le Seigneur lui a accordée. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué que ce matin au culte, l'apôtre Paul n'est pas là. Ni les autres apôtres. Donc on n'a pas quelqu'un qui est là, qui fait autorité, qui peut nous expliquer, nous dire les choses, et je suis sûr qu'on aurait tous des questions à lui poser, hein, sur certains versets de la Bible bien compliqués. Il n'est pas là. Mais heureusement, nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Nouveau Testament, qui a été inspiré par l'Esprit. L'inspiration, ce n'est pas de l'écriture automatique, hein, comme dans l'occultisme, mais c'est des gens qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu pour écrire, et même parfois pour faire des recherches avant d'écrire, hein, tout comme Luc le dira. L'apôtre, lui, il a écrit donc 13 lettres qui nous montrent comment il a enseigné, quels sont les fondements du christianisme, comment aussi il a défendu cette vérité de l'Évangile. Nous, aujourd'hui, on est à une époque où l'information circule très facilement. Ah, dans le monde évangélique, rien qu'au niveau information, qu'est-ce qu'on est inondé par l'ordinateur et tout le bazar. 9 informations sur 10, c'est pour réclamer un soutien, des dons et tout ça. Bon. Mais il y a d'autres informations qui circulent qui ne sont pas toujours les meilleures. Ah, avec Internet, on a accès à beaucoup de choses, on a accès à un tas de littérature, on peut assister à des tas de conférences, des choses organisées et tout ça. Et dedans, il y a parfois des choses bonnes, et même très bonnes, mais aussi des choses mauvaises, et parfois très mauvaises. Autant Internet peut être un superbe outil, autant ça peut être dangereux. Après, c'est pas pour ça qu'il faut s'interdire Internet. Moi, avec proprement plutôt, et puis aller tuer mon voisin, mais peut-être qu'un quart d'heure après, je peux aller couper du pain, donc c'est l'utilité que j'en fais. Donc Internet, c'est pareil, il faut savoir filtrer. J'ai dû faire, il n'y a pas très longtemps, des conférences pour la Dizon sur le christianisme face à la société. En gros, c'était ça. On avait insté le christianisme, force ou faiblesse dans une société postmoderne. Donc, il avait fallu que je me documente. Donc, j'ai été sur Internet et tout. Et je suis tombé sur de très bons sites qui m'ont vraiment aidé. Vraiment, sur les notions de pardon et toutes ces choses, c'était vraiment très chouette. Mais il y avait d'autres choses très légalistes et tout. Mais j'ai dit, quand on n'a pas une certaine connaissance, comme on peut vite fait absorber ces choses et sans le voir, commencer tout doucement à dévier. Vous voyez les faux docteurs qui rentraient dans l'église du temps de l'apôtre Paul, croyez-moi, ils devaient avoir un discours séducteur, hein, parce que s'ils avaient affirmé des choses, mais on vous a dit blanc, mais non, c'est noir, mais non, non. Vous voyez, des fois, dans le choix qu'on fait, hein, par rapport à des commentaires, des choses qui sont dites, c'est plutôt une différence entre un gris clair et un gris foncé, où on avait un petit peu de mal à voir, où les choses qui sont mauvaises sont mises par l'arrière. C'est-à-dire que vous lisez la chose, vous pensez qu'elle est bonne, et en fait, on est en train de vous transmettre quelque chose de mauvais. Hein ? Une amie, il y a quelques temps, m'a envoyé un truc qu'elle a trouvé sur Internet. « Oh Jean-Pierre, tu aurais dit ça, tout ça, c'est vraiment courageux et tout. » Et je l'ai lu, et c'était un truc extrêmement légaliste, mais qui avait des versets bibliques pour appuyer tout ce qui était dit, qui était bien écrit. Et si vous le lisiez comme ça assez rapidement, vous diriez « Oh, c'est bien le truc-là !» En fait, c'était une notion de la sainteté qui était très légaliste, qui terminait par les habits, la manière d'être et tout. Et j'ai dit attention, parce que regarde ça et ça et ça, c'est quelque chose de mauvais. Et donc, on doit veiller, tout comme l'apôtre l'a fait, et d'où le besoin, la nécessité de méditer cette parole. On doit être capable de trier entre le bon et le mauvais, entre le juste et le faux. Et Pierre dira qu'un homme fait, c'est celui qui est capable de discerner entre le bien et le mal. On doit apprendre, je dirais, même si le mot peut paraître faux, mais on doit apprendre à aimer la parole de Dieu. Quand on la lit, on ne doit pas la lire pour être un bon chrétien évangélique, mais on doit la lire avec la joie de passer un moment avec cette parole dans la présence du Seigneur. Il dit toujours que, bien sûr, il y a des guides de lecture, tout ça, pour lire la Bible en un an et trucs comme ça, je trouve que c'est très bien, que ça peut aider. Mais si je vais juste lire mes 3 ou 4 chapitres par jour pour les avoir lus parce que je suis un chrétien évangélique, j'ai loupé quelque chose, et là, je suis déjà en train de tomber dans un certain légalisme. Parce que le jour où je ne vais pas lire, je vais me culpabiliser. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas lu ma Bible parce que, voilà, il y a eu ceci, cela. Non. Quand je vais lire la parole de Dieu, je dois avoir une certaine joie, une envie de la lire, de me dire, Dieu va me parler. Et je peux vous promettre qu'à chaque fois que je fais mon temps de lecture de la Bible, je prie Et je dis, Seigneur, parle-moi tout ça, ouvre-moi l'intelligence, que je comprenne. Et je prie, Seigneur, garde-moi de ne pas regarder le texte en voyant, tiens, je pourrais faire une bonne prêche là-dessus ou un enseignement là-dessus. Parce que le piège pour moi, c'est que la Bible ne devienne pas un outil de travail, mais qu'elle reste la parole de Dieu. Un prof à l'institut m'a dit, tu feras attention, Jean-Pierre, de ne pas toujours parler de Dieu en disant « il », mais de parler à Dieu en disant « tu ». Hein, ne prends pas la Bible juste pour être un outil, pour dire voilà ce que la Bible enseigne, mais que ça soit avant tout une relation avec ton Dieu. Les adversaires de l'Évangile chercheront toujours à discréditer l'autorité de l'Écriture. Vous avez peut-être déjà vu quelque part cette phrase « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et le doute sur la parole de Dieu. Et quand vous annoncez l'Évangile, combien de fois on dit « Oh, mais la Bible, hein, chaque fois que les rois ils ont passé, ils ont changé l'histoire pour que ça les arrange et tout. » Ça, c'est les gens qui n'ont pas lu le livre des rois. Hein, parce que quand on voit la vie des rois dans l'Évangile, c'est pas terrible. Enfin, dans la Bible, je veux dire, c'est pas terrible. On met toujours le doute sur la parole de Dieu et sur sa bonté. Et si le diable arrive à mettre en nous le doute sur la parole de Dieu, hein, dans le monde plus protestant, pas des des théologiens qui sont un peu des libéraux, on va dire, c'est-à-dire des gens qui vont nier la résurrection du Christ, qui vont dire que Christ n'est pas vraiment ressuscité, mais il est ressuscité dans l'esprit de ses disciples, ou qui nient les miracles, hein, qui disent non, il n'y a pas la multiplication des pains, c'est juste qu'ils ont partagé le pain à tout le monde, c'est juste pour montrer la communion fraternelle. Vous voyez, on commence à enlever tout le côté miraculeux, tout ça, et en fait, il ne reste plus grand-chose après de l'Évangile. Faisons attention, veillons à ce que ça ne rentre pas dans nos églises. On doit être pleinement convaincu que la Bible, c'est pas un livre que les hommes ont écrit sur Dieu, mais c'est un livre où des hommes ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit. C'est pas le message que des hommes adressent à Dieu, mais c'est le message que Dieu adresse aux hommes. Et Henri Blocher, donc un théologien connu, a dit « La Bible, c'est la lettre d'amour que Dieu a envoyée aux hommes. » Une deuxième réponse, c'est donc la gratuité de cet évangile qui transforme notre vie. Pour les judaïsants, que ce soit des chrétiens judaïsants ou simplement des juifs qui essayent de pénétrer dans l'église pour attirer les chrétiens à eux, le salut ne peut pas s'obtenir par la grâce seule. Le salut s'obtient par la grâce, mais aussi par l'observation de la loi. Circoncision, sabbat et tout ça. Il prêche finalement un évangile où la grâce est absente ou alors totalement diluée. Et le salut par la foi revient à un salut par la loi ou un salut par les œuvres. Et on perd la gratuité de l'évangile. Hein, et dans la lettre aux Éphésiens, premier chapitre, hein, ce qui l'idée qui traverse, c'est vraiment cette gratuité de l'évangile. Il parle d'un salut où ma bonne conduite, mon obéissance à la loi va me rapprocher de Dieu. Hein? Ou si tu fais telle et telle chose, tu auras un regard favorable de Dieu sur toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande, ce n'est pas ce que Jésus enseignait, ce n'est certainement pas non plus ce que les apôtres enseignaient. Jésus n'a pas venu enseigner une observation de la loi, il n'est pas venu faire une réforme de la loi, mais avant tout, il est venu s'offrir sur la croix. En sacrifice. Hein? Il y a le sacrifice de Jésus sur la croix. Bien sûr, Jésus est aussi notre modèle. Il est aussi le Jésus enseignant. Mais son œuvre principale, c'est sur la croix. Il est venu pour nous racheter. Et on pourrait dire que l'évangile se résume dans cette parole de Jésus. Il dit dans l'évangile de Luc que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu réformer la loi juive. Et la bonne nouvelle, c'est que vraiment le salut est gratuit. Et notre joie doit venir aussi de ce salut gratuit que nous avons accepté, que nous avons reçu, parce que Jésus a tout accompli sur la croix. La bonne nouvelle, c'est qu'il a quitté son ciel de gloire pour se faire homme, pour s'offrir en sacrifice, pour aujourd'hui pouvoir nous offrir le pardon de nos fautes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à rajouter à son œuvre. Même si lorsqu'on a reçu Jésus comme sauveur, Hein, on a en nous ce désir de marcher dans l'obéissance, dans la sanctification, mais pas pour obtenir le salut, mais parce que on a obtenu ce salut. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. La colère de Dieu ne demeure plus sur nous. La mauvaise nouvelle, qu'il était déjà du temps de l'apôtre, c'est que l'orgueil est dans le cœur de l'homme. Et c'est cet orgueil qui empêche bien des gens de recevoir l'Évangile. Je vous ai déjà dit peut-être cette phrase, mais veillons, car dans le cœur de chaque chrétien, il y a un pharisien qui dort. Pourtant, les gens autour de nous sont conscients de la vie qu'ils mènent. Et nous, quand on annonce l'Évangile, ils sont conscients qu'il y a quelque chose entre ce qu'ils vivent et ce qu'on annonce. On annonce une bonne nouvelle, on annonce un salut gratuit, et les gens ont du mal à l'accepter, ont du mal à plier le genou. Mais vous, est-ce que vous n'avez pas eu du mal à plier le genou? Non, dès que vous avez entendu l'Évangile, vous êtes tombé sur vos genoux. Il faut un temps, il faut une œuvre qui se passe en nous pour accepter qu'on est des pécheurs perdus et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et à ceux à qui j'annonce l'Évangile et qui me disent « Oui, mais c'est trop facile, si Dieu a tout accompli, qu'il suffit de demander pardon pour ses péchés, alors c'est vraiment trop facile. » Et je réponds toujours, au risque de me prendre un coup, que c'est pas si facile que ça. La preuve, c'est que tu n'as encore pas plié le genou pour recevoir le sacrement. C'est la vérité. Paul parle d'un Évangile qui a transformé sa vie. Vous saviez quelle était ma conduite avant dans le judaïsme. Et donc, en me regardant vivre, vous pouvez voir qu'il y a eu une transformation. Elle ne le dit pas, mais qu'il ne peut pas venir de l'homme. Ah, rien. Un Évangile qui transforme la vie. Il peut affirmer, lui, qu'il était un observateur zélé de la loi, mandaté par les chefs religieux pour aller persécuter les chrétiens. Imaginez la confiance qu'ils avaient en lui. Ah, et dans certains passages, il va dire « Mais moi, j'étais dans telle tribu, enseigné par telle personne, et j'observais la loi comme aucun parmi les gens de mon âge. J'étais vraiment zélé, connu et tout. » Et tout ça ne lui a servi à rien. Vous saviez comment j'étais avant, vous voyez comment je suis aujourd'hui. C'est la preuve que l'Évangile a transformé ma vie. Voilà un des messages de l'apôtre. Pour nous aussi, la plus belle preuve que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est la transformation qu'il a opérée dans nos vies et qu'il opère encore. Pour conclure, je dirais que dans ce premier passage que nous avons lu, j'en retire que nous devons veiller les uns sur les autres pour que personne ne se mette sous une loi quelconque, on abandonne l'Évangile qui nous a libérés. Et je reconnais qu'apprendre à marcher dans la liberté que nous donne l'Évangile n'est pas toujours facile. On aime se réfugier derrière des lois, des petites traditions, parce qu'on a l'impression que quand on obéit aux petites lois, aux règles qu'on s'est fait, on est les meilleurs chrétiens, on est plus saints. On rappelle qu'on est en communauté et qu'on ne vit pas sa foi tout seul dans son coin. On a besoin des frères et sœurs, et les frères et sœurs ont besoin de nous. Et la marche dans l'obéissance à la sanctification est beaucoup plus facile quand on vit en tant qu'Église. Parce qu'on a besoin de s'encourager, on a besoin du soutien des frères et sœurs. On a besoin de dire quand on a des faiblesses, des problèmes à d'autres qui peuvent nous encourager. Ma prière, c'est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit agissante et efficace en chacun d'entre nous, et que personne ne se prive de cette grâce. Amen. Amen.